Radio Prague, les informations.
La future coalition veut changer le système de rémunération dans le secteur médical. Parade gay et lesbienne à Brno et en tennis à Wimbledon, 3 tchèques en 8e de finale. Voici les titres de cette édition. Bonjour, la future coalition veut changer le système de rémunération des professions médicales. Basé sur l'ancienneté, il ne récompense pas forcément les différentes qualifications et les compétences développées par les médecins ou les infirmières les plus jeunes. Les médecins les plus âgés sont forcément les mieux payés, une situation jugée peu motivante par la future coalition qui voudrait ainsi laisser les directions des hôpitaux établir eux-mêmes leur barème de rémunération. La Chambre des médecins craint néanmoins que cette réforme entraîne une baisse des salaires pour un certain nombre d'employés du secteur. Et sachez également que la future coalition gouvernementale a aussi l'intention de réduire le budget du ministère de la Défense pour transférer ses fonds au ministère de l'Éducation nationale. Elle voudrait ainsi, à partir de 2,1 milliards de couronnes transférées, instaurer un salaire minimum de 20 000 couronnes pour les enseignants. Des centaines de personnes participent ce samedi après-midi à une marche gay et lesbienne dans le centre de la capitale morave. La police a fermé la circulation et elle est prête à intervenir pour défendre les manifestants contre d'éventuelles attaques d'extrémistes de droite. Les jeunes chrétiens démocrates ont également organisé une manifestation quelques heures auparavant pour défendre les valeurs traditionnelles de la famille. Même si la loi tchèque permet depuis 2006 aux homosexuels de s'unir sous la forme d'un partenariat, l'adoption n'est pas permise. Les associations gays et lesbiennes manifestent pour lutter contre les discriminations. Deux récompenses ont été décernées au film tchèque Le paradis terrestre pour les yeux de la réalisatrice Irena Pavlaskova au Festival international du film de Moscou. Le jury était présidé par le cinéaste français Luc Besson qui a remis à l'actrice Vilma Tsibulkova le prix de la meilleure actrice. Le film qui se déroule sous la période de la normalisation en Tchécoslovaquie et qui évoque la dissidence a également reçu le prix de la Fédération internationale des critiques de cinéma Fipresky. Il est sorti en 2009. Et puis un mois de tennis à Wimbledon, Tomáš Berdych a remporté son match vendredi contre l'Ouzbek Denis Istomin. Il est donc en 8e de finale avec ses compatriotes Petra Kvitova et Klára Zakopolová. Voilà, en météo dimanche, nous fêterons les Ladislaves. Selon le calendrier local, le ciel sera complètement dégagé pour laisser régner un grand soleil. Les températures oscilleront entre 21 et 25 degrés. C'était le bulletin d'information qu'avait le plaisir de vous présenter.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Entre 1909 et 1911, le poète Paul Claudel a été consul de France à Prague. Il n'a passé que 18 mois dans la capitale tchèque et pourtant, ses séjours ont laissé une trace importante dans son œuvre. C'est justement à cette période fructueuse dans la vie du poète qu'était consacré le colloque Bicéphale, dont le premier volet s'est tenu le 18 juin dernier au centre tchèque de Paris et le second le 21 juin au couvent d'Emmaüs à Prague. Le colloque intitulé « Dissonance et accords, Paul Claudel et la Bohème » a révélé de nombreux aspects du rapport complexe qui s'était formé entre le poète et notre pays et qui lui a inspiré plusieurs œuvres importantes. Parmi les participants au colloque figurait Didier Alexandre, professeur à l'université de Paris-Sorbonne. Il a évoqué au micro de Radio Prague la trace que le séjour pragois a laissée dans l'œuvre de Claudel.
Ça, le colloque le montre bien, c'est le baroque, hein, la grande séduction baroque pour un art du mouvement, bon, un art qui va du visible vers l'invisible, un art très séduisant. Il y a aussi, chez Claudel, une réflexion, si vous voulez, littéraire et politique à la fois, qui va pénétrer l'œuvre, donc la trilogie des Coups Fontaine, qu'il écrit, qu'il commence à écrire au moment où il est à Prague, puisqu'il écrit L'Otage pendant qu'il est à Prague. Et ensuite, il va y avoir aussi, évidemment, Le Soulier de Satin, qui sera l'achèvement de cette pensée géographique, politique, etc. Donc l'imprégnation est vraiment très très profonde. Je crois que Dominique Millet le dit aussi à sa façon, c'est un moment de fixation. Bon, il est difficile de vraiment en connaître toute l'étendue, précisément parce que les documents nous manquent. Mais je pense que ça a été un moment très important. Il faut voir aussi que c'est le premier poste diplomatique de Claudel en Europe. Il n'avait pas eu de poste diplomatique, donc il découvre l'Europe, en fait, si vous voulez. Il le découvre, encore une fois, dans ses contradictions. L'Europe est en train de changer, d'évoluer. C'est un peu, la Première Guerre mondiale sera la fin de la civilisation européenne, quelque part, on le sait. Claudel le vivra historiquement en tant que diplomate, dans sa pratique de diplomate, mais littérairement, il restera attaché à toute cette idéalisation de l'Europe catholique qu'il met en place au moment où il est à Prague. C'est pour ça que c'est un moment fondamental, Prague, extrêmement important.
La partie pragoise du colloque consacré à Claudel a eu lieu dans le couvent d'Emmaüs, endroit lié au séjour pragois du poète. C'est là que Claudel a assisté à une représentation de Ludus Pascalis, un spectacle liturgique qui l'a profondément impressionné. C'est aussi ce qu'a constaté dans son intervention Dominique Millet-Gérard de l'université Paris-Sorbonne. Elle a d'abord évoqué l'attrait que cet endroit a exercé sur le poète.
Eh bien, Claudel le connaissait bien parce qu'il habitait dans le quartier et qu'il venait tous les jours à la messe au couvent d'Emmaüs. Et il connaissait donc bien aussi le père abbé de l'époque, il dînait souvent avec lui. Et puis bien sûr, le rapport le plus important, c'est qu'il a vu dans ce couvent, en 1910, Ludus Pascalis qui a été donné à l'occasion de la rénovation des bâtiments du couvent.
Quelle a été l'impression que ce Ludus Pascalis a laissé à Claudel ?
Une impression très très forte. Il le dit dans son journal, il a vraiment été émerveillé par ce spectacle. Il faut dire que c'est des spectacles que l'on ne donnait plus en France. La tradition a été rompue en France pour des raisons historiques complexes. L'interdiction de jouer des mystères à partir du XVIIe siècle et puis ensuite le jansénisme en France. Donc ce genre de spectacle, Claudel n'imaginait même pas que ça pouvait encore exister. Et ça a été vraiment pour lui un émerveillement et une source ensuite d'inspiration très forte.
Peut-on dire donc que l'impression de ce spectacle s'est reflétée d'une certaine façon dans son œuvre ?
Oui, moi j'en suis convaincue, et en particulier dans l'écriture de l'annonce faite à Marie, qu'il a écrite tout de suite après, qu'il a commencé à réécrire à ce moment-là. Et il y a une déclaration de lui qui dit qu'effectivement, ce spectacle a influencé l'écriture de l'annonce faite à Marie, dans le sens du miracle, dans le sens de l'insertion de morceaux liturgiques et également de poses théâtrales, enfin en particulier lorsque Violaine montre son flanc, ça fait bien sûr penser au Christ qui montre son côté à saint Thomas dans le Ludus.
Dans les années 1920-1930, l'œuvre de Claudel a été beaucoup traduite et lue dans les pays de langue tchèque, grâce surtout à des auteurs, des traducteurs et des poètes d'orientation catholique comme Jan Zahradníček, Bohuslav Reinek, Otto František Babler et Miloš Martin. Petra Jam de l'université Paris-Sorbonne évoque la réception de l'œuvre de Claudel après la Deuxième Guerre mondiale.
Après 48, donc après le putsch communiste, on pouvait pas parler de Claudel. En fait, les seules publications, les seules traductions de Claudel apparaissent entre 68 et 60, 70, voire 73. Donc, en fait, la période où on reparle de Claudel en Bohème est extrêmement courte. Et de nouveau, il disparaît et il réapparaît seulement dans les années 90. Donc, en fait, ceci ne contribue pas à la connaissance et à la réception de Claudel en Bohème. En fait, ça se résume vraiment pour une période très très courte, à la fin des années 60 en fait.
Paul Claudel était poète, mais aussi un grand dramaturge. Selon Petra Jam, la réception du théâtre de Claudel en Bohème se heurtait cependant à des obstacles d'ordre idéologique.
Il était traduit et donc représenté sur les scènes tchèques pour la première fois en 1914. C'était l'annonce faite à Marie, qui a été mise en scène par Jaroslav Kvapil, donc un grand metteur en scène de théâtre national à Prague. Mais en fait, la mise en scène, donc dans la traduction de Marten, avec les décors de Zdenka Braunerova, a eu vraiment très peu de succès. Et de manière générale, l'œuvre dramatique de Claudel s'est toujours heurtée sur l'incompréhension, voire refus du public tchèque. Souvent, les critiques étaient d'ordre idéologique, hein, parce que le catholicisme de Claudel était difficile à digérer pour les Tchèques au moment, en 1914, juste avant la fondation de la Tchécoslovaquie indépendante, où tous les efforts se concentraient sur les valeurs nationales que justement Claudel refusait ou s'y intéressait pas. Donc en fait, ces positions de Claudel étaient un point de désaccord, hein, et aussi une barrière pour la réception un peu plus positive de son œuvre en bohème. Mais ça se répète aussi dans les années 60. Les représentations qui ont été faites à la fin des années 70, à la fin des 60, en fait, étaient, oui, très peu suivies, plutôt mal accueillies. Hein. Donc c'est seulement dans les années 90, de nouveau, je répète, Martin Kuchera, il y avait beaucoup de représentations de Claudel. Pour la première fois, on a fait une représentation du soulier de Satan. Et là, on voit un vrai engouement pour Claudel. Mais c'est vraiment les années 90 du XXe siècle.
Je vous ai amené au colloque Dissonance et Accords, Paul Claudel et la Bohème, qui a eu lieu au couvent d'Emmaüs à Prague. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Martin Frezal, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Il y a deux semaines de cela, nous avions évoqué quelques mots propres à la langue tchèque et intraduisibles. Il s'agissait notamment des mots
Čecháčkovství
et
Čecháček.
Pour cette fois, nous allons nous intéresser à deux autres mots tout aussi intraduisibles, mais qui vous diront sans doute pourtant quelque chose, puisqu'ils possèdent un rapport avec ce que la littérature tchèque a produit de mieux au XXe siècle. Il s'agit des mots
Kafkárna
et
Švejkovina.
Císaře pána a jeho rodinu.
Za císaře pána a jeho rodinu.
Museli jsme vybojovat Hercegovinu.
Son nom est connu d'un grand nombre, en République tchèque comme ailleurs en Europe et dans le monde, et pourtant, peu de gens connaissent véritablement son œuvre ou ont lu ne serait-ce qu'un seul de ses ouvrages. Ce constat vaut pour les Tchèques comme pour une grande partie des milliers de touristes qui continuent de se rendre à Prague sur les traces de Franz Kafka, souvent présenté comme écrivain tchèque de langue allemande. On entend d'ailleurs souvent encore parler de la Prague de Kafka, et ce, même si aujourd'hui, il faut bien de l'imagination en déambulant dans les rues de la vieille ville ou de Josefov, le quartier juif, pour ressentir son âme et donner de la substance aux évocations de Kafka. Ainsi donc, de Franz Kafka, dont on connaît le nom, mais peu ou pas les livres, en revanche, il est un mot que tous les Tchèques ou presque connaissent.
Kafkárna.
En résumé, il s'agit d'un mot qui sert à désigner une situation absurde, contraire à la logique, au sens commun, bref, dénué de sens. En français,
Kafkárna
pourrait être traduit comme une absurdité. Même si cette traduction ne serait pas tout à fait juste, il n'en demeure pas moins que l'absurdité demeure une notion clé dans l'œuvre de Kafka, un de ses traits typiques que l'on retrouve notamment dans Le Procès, un de ses romans les plus célèbres.
Kafkárna
désigne aussi un système bureaucratique et absurde qui, quand il se met en marche, risque de broyer dans ses rouages les pauvres individus désemparés et sans défense qui cherche en vain à le comprendre. En français, il existe l'adjectif kafkaïen, et si l'on s'en tient aux traductions que l'on trouve dans les dictionnaires, il s'agit d'un adjectif servant non seulement à marquer la relation à l'œuvre de Kafka, mais évoquant aussi l'ambiance tendue, l'atmosphère oppressante et l'absurdité des œuvres de Kafka. Dans son livre intitulé Gotland, disponible en français aux éditions Actes Sud, le journaliste polonais Mariusz Ciegiel consacre un chapitre à ce mot
« Kafkarna »
à travers l'histoire d'une étudiante américaine qui arrive en Tchécoslovaquie au milieu des années 1980 afin de se familiariser avec le monde de Kafka. Cette étudiante découvre alors le mot
« Kafkarna »
et s'efforce d'interroger les Tchèques pour mieux comprendre ce que cela signifie. Elle obtient alors des réponses toutes différentes, certes sans parvenir à une définition concrète, mais toutes ces réponses ont encore une fois un point commun, leur absurdité. On serait donc tenté de dire, pour conclure, que
« Kafkarna »
désigne une situation absurde dont seuls les Tchèques ou les étrangers connaissant bien la façon de penser tchèque saisissent le caractère kafkaïen. Le deuxième mot qui nous intéresse est donc
Schweikovina,
un mot dans lequel on retrouve le nom de Schweik, Józef Schweik, le nom du héros du célèbre roman de Jaroslav Hašek.
Osudy dobrého vojáka Schweika za světové války.
En français, plus simplement, le brave soldat Schweik. Ici aussi, l'absurdité, sous une autre forme toutefois que celle que l'on trouve chez Kafka, est omniprésente. Mais les choses sont plus simples à comprendre, car une
Schweikovina
est un comportement, une manière d'agir qui dénie le sens de l'ordre, d'un régime ou d'une procédure. À l'image du comportement de Schweik dans le roman, une
Schweikovina
est donc une négation de toute discipline et de toute responsabilité. Avec le temps, l'interprétation du mot a évolué, s'est élargie, et désormais
Schweikovina
est aussi devenu synonyme d'un comportement rigolo, drôle, voire grotesque. Mais il s'agit là, précisons-le bien, d'une interprétation erronée.
Herzegovina, Gelautrovina, tu musela vivojovat infanteria.
Ainsi donc s'achève ce tchèque du bout de la langue consacré à ces deux mots et ces deux notions typiquement tchèques que sont
Kafkarna
et
Schweikovina.
En attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine pour d'autres découvertes de quelques-uns des mystères de la langue tchèque, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce courrier consacré cette semaine à la présentation de la réponse de la gagnante du grand concours de Radio Prague ainsi qu'à la meilleure réponse en ce qui concerne nos auditeurs francophones. Avant cela, Anna Kubiszta va nous rappeler quelle était la question.
La question du concours était la suivante. Quel écrivain tchèque ou quel livre tchèque vous a le plus marqué et pourquoi?
Alors, notre grande gagnante cette année nous vient des États-Unis. Il s'agit de Madame Tracy Andreotti. Elle a donc gagné un séjour pour deux personnes à Prague. Quant au francophone, le lauréat qui recevra lui un autre prix de valeur nous vient de Belgique. C'est Monsieur Bernard Leblic. Mais avant de découvrir sa réponse, voici d'abord celle de Tracy Andreotti.
J'en garde toujours un vif souvenir. C'était en juillet 2004 et dans le Middle West, il faisait très chaud, très lourd. Ennuyé et un peu déprimé par toute une série de livres d'auteurs allemands que je venais de lire, j'ai décidé de suivre le conseil des libraires du magasin Amazon, qui me recommandait depuis fort longtemps l'auteur tchèque Josef Skvoretsky. Ils m'ont assuré que j'y trouverais un certain plaisir, à l'instar du brave soldat Schweik.
J'ai donc pris la voiture pour me rendre chez mon libraire préféré et remettre à la vendeuse un billet froissé avec le nom énigmatique et difficile à prononcer de l'écrivain.
Après avoir consulté son ordinateur, la vendeuse m'a dit qu'elle n'avait rien pour l'instant de cet auteur, mais qu'elle allait commander plusieurs romans de Skvoretsky. Au moment même où je choisissais « Résigner », un nouveau Sebald, elle a souri en me disant qu'elle avait finalement trouvé un livre de cet auteur, « L'ingénieur des âmes humaines ». Contente, j'ai tout de suite décidé de le prendre.
En rentrant chez moi, je me suis arrêtée sur la terrasse d'un restaurant pour boire un café glacé et me suis mise à feuilleter le nouveau livre. Ma découverte a dépassé toutes mes attentes. Je suis tombée littéralement amoureuse de Skvoretsky et de son alter ego, Dany Smirjitsky. Je ne veux pas dramatiser les choses, mais il est vrai que l'achat de ce livre a complètement transformé ma vie.
J'avais l'impression d'y vivre avec Dany et ses amis. Je ne suis pas tchèque, je n'ai jamais visité la Tchéquie, je n'ai pas connu le totalitarisme, je n'ai pas eu à prendre la voie de l'émigration. Mais ce récit m'a complètement transportée sur les lieux de l'action. C'était un monde entièrement différent. Le pathos et l'humour y avaient leur place. J'ai pris conscience des difficultés de la vie au quotidien en période de guerre. Cela m'a touchée tant sur le plan intellectuel qu'émotionnel. J'ai souhaité rester dans ce monde et mieux le connaître.
Je me suis donc lancé avec assiduité dans la recherche d'autres informations sur l'auteur, sur ses maisons d'édition, le travail qu'il avait fait lui-même ou en commun avec sa femme Zdenia Salivarova, sur les efforts qu'ils avaient déployés pour que la littérature tchèque soit présente sur le marché mondial. J'ai lu tous les livres de Skvoretsky, l'un après l'autre. J'ai lu tous ses romans et contes, j'en ai plus d'une vingtaine dans ma bibliothèque, toute une étagère en est pleine. Après avoir lu tous les livres de Skvoretsky, traduits en anglais, je suis passé à Bohumil Hrabal, Ivan Klima, Milan Kundera, Karel Čapek, Ludvík Vaculík et Vladislav Vančura. J'ai lu tout ce qui était disponible et je suis tombé amoureuse, d'une manière ou d'une autre, de chacun d'entre eux. L'étagère contenant les œuvres de Skvoretsky s'est vite transformée en une bibliothèque d'auteurs tchèques. Je peux dire que je suis passionnée par cette littérature et je suis très exigeante aussi en ce qui concerne la qualité de la traduction.
Mon intérêt pour la littérature tchèque m'a conduite vers le site de Radio Prague qui m'apporte une dose régulière d'informations sur la vie et les événements politiques dans le pays. Je possède en outre plusieurs films tchèques, toujours grâce à Skvoretsky et à ses récits captivants sur le film tchèque. Je me suis de nouveau intéressée aux compositeurs tchèques, Antonín Dvořák et autres, et j'ai découvert de nouveaux talents musicaux, parmi lesquels Iva Bitova, grâce à son portrait sur Radio Prague.
Et puis, il y a un an, je me suis dit que le temps était venu d'apprendre le tchèque. Depuis, je fréquente chaque semaine des cours au Sokol local. Les progrès sont longs, mais je m'en réjouis.
Selon mes amis, je suis tchécophile et j'en suis fière. Il en est vraiment ainsi grâce à mon écrivain tchèque préféré, Skvoretsky. Et voici maintenant la réponse de Bernard Leblic, que nous avons considéré comme étant la meilleure parmi toutes celles signées de nos auditeurs francophones.
Il est bien difficile de répondre à cette vaste question du concours de Radio Prague de ce printemps, surtout pour un francophone belge qui ne peut malheureusement lire que des textes traduits avec les nuances de la langue nécessairement perdues.
Entre les auteurs qu'on ne présente plus, comme Kafka, Havel, Hašek, Kundera, Čapek ou Hrabal, ceux plus récemment découverts grâce à mes amis tchèques, comme Hulova, Kratochvil, Klima, Ořetník, Topol, Pecka, Třešňák, ou encore l'étonnante octogénaire Legatova ou Němcová et sa douce Babička, le choix est ardu. J'aime aussi particulièrement Perut, mais il me pose un problème. Si certains le définissent comme un auteur tchèque, je le tiens plutôt pour autrichien.
Sans doute manque-t-on aussi l'œuvre de l'un ou l'autre écrivain non traduit, ou enfin l'un ou l'autre dont quelques livres seulement peuvent se lire en français. Et là, je pense plus particulièrement à Ladislav Fuchs, à qui je donne mes préférences.
Quelle imagination dans le choix de ses sujets, quelle verve, quel style chez cet homme qui partage, on le devine rapidement, la vulnérabilité de ses héros. Que j'aime aussi cette quasi-omniprésence de Prague dans le décor de ses livres. Si trois romans seulement peuvent se lire en français, comment ne pas s'y plonger avec délices ? Mais il est vrai aussi avec quelque inquiétude.
Dans Monsieur Moonstock, que j'ai lu en premier, l'angoisse du héros est décrite de façon hallucinante, sans pour autant manquer d'humour. Le dialogue entre Moonstock et son ombre, qui le harcèle, commente toutes ses faiblesses et le brime presque aussi brutalement que ne le fait le régime de l'occupant allemand, est habile et percutant. et quelle trouvaille littéraire que cette ombre dont il va sans doute se débarrasser en se préparant avec méthode avec la déportation à laquelle il croit ne pas pouvoir échapper. J'ai aimé la chute du récit et la mort presque banale du héros écrasé par les roues d'un camion militaire allemand et non en déportation à laquelle il s'était si longuement préparé.
Que dire aussi de l'incinérateur de cadavres qui est autant, si pas davantage, effrayant et grinçant. Ce portrait de M. Kopfringel, cet homme bien sous tout rapport, employé vraiment modèle au crématorium de Prague, ainsi que la description terrifiante de sa métamorphose mentale au contact de son ami nazi, donne littéralement froid dans le dos en vous interpellant dans les pires équivoques de notre civilisation. Comment ne pas halluciner devant cette évolution vers le rêve du héros d'une race pure qui va passer par l'incinération de sa propre famille au sang juif. Seul le style et l'écriture si particulière de Fuchs pouvaient dépeindre ce thème affolant qui frôle le cauchemar et l'effroyable sans jamais heurter le lecteur. Un pur plaisir littéraire.
Quant au voyage en terre promise, on ne peut s'empêcher de s'amuser à la lecture des dialogues qui en constituent la trame entre bourgeois juifs à la conversation mondaine, inutile, et un rabbin féru de citations de l'Ancien Testament, mais aux intentions énigmatiques, tous ensemble sur une frêle embarcation qui arbore un drapeau nazi et navigue sur le Danube sans que la destination ne soit certaine.
Et malgré la gravité du thème, cher à Ladislav Fuchs, à savoir les Juifs et l'Holocauste, l'écriture habile, inventive et ingénieuse de l'auteur fait à nouveau mouche et interpelle le lecteur tout en le réjouissant.
J'ai aimé ses écrits au thème grave, racontés sur un ton émouvant, parfois frivole aussi, et au déroulement inventif dû à une imagination fertile, sans doute un peu iconoclaste, mais toujours juste.
Que dire d'autre, si ce n'est que j'attends avec impatience la traduction des autres récits de Ladislav Fuchs.
Voilà, c'est donc avec la réponse de Bernard Leblic que nous avons considéré comme la meilleure réponse parmi toutes celles envoyées par nos auditeurs francophones que s'achève ce courrier des auditeurs et avec lui le programme en langue française de Radio Prague pour aujourd'hui. Merci donc de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.